RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Alors ce soir, notre invité Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Merci.
Bonsoir.
Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc après les annonces du président et la mise en œuvre des mesures détaillées par le Premier ministre, la mobilisation a très nettement baissé. Est-ce que selon vous, l'incendie social est stoppé, est arrêté, est éteint ?
Je crois que ce qu'on a entendu et pris en compte depuis plusieurs semaines, c'est oui, c'est un cri de colère, pas simplement des gilets jaunes, mais des gens dans l'opinion publique qui soutiennent et qui, pour certains, est un cri de détresse. Et en clair, une grande partie des personnes qui manifestent ou qui soutiennent sont des personnes qui travaillent et qui, malgré ça, ont du mal à joindre les deux bouts. Donc, sur les minima sociaux, on a déjà fait beaucoup. On a engagé des réformes structurelles, économiques et sociales qui vont apporter à tous, qui, en termes d'emploi, en termes de pouvoir d'achat. Et je crois que là, on entend qu'il y a une urgence là très forte. Maintenant, le président de la République a annoncé des mesures pour l'urgence sociale. Dès demain, nous serons au Parlement pour un projet de loi qui va être débattu pour pouvoir décider de ces mesures avant la fin de l'année. Et du coup, on ouvre en même temps un deuxième chapitre, c'est il y a les mesures d'urgence et puis il y a le grand débat national qui va s'ouvrir de janvier à mars et qui a pour objet de réconcilier l'économique, le social et l'écologique, mais en discutant partout sur le terrain et là qui aboutira certainement à des mesures de plus long terme.
Donc je crois qu'on est en train de passer... Comme disent les pompiers, c'est circonscrit.
Je sais pas si c'est le mot parce que c'est pas un incendie au sens strict, ça révèle des choses qui existent depuis des années ou des décennies qui se sont cristallisées, qui on peut dire qui ont flambé maintenant. Mais je crois qu'il y a bien deux temps, il y a un temps de gestion d'urgence ce qu'on fait maintenant et puis le temps d'ouvrir plus largement à un débat citoyen sur des sujets de société sur lesquels on voit qu'il y a besoin de beaucoup débattre et que les solutions doivent être construites avec nos concitoyens et pas simplement pour eux, même si le programme présidentiel a été fait à partir des demandes des citoyens.
On a appris cet après-midi que le gouvernement renonçait à une partie des mesures qui ont été annoncées par Édouard Philippe à la mi-novembre, au début du mouvement des Gilets jaunes, parce que un certain nombre d'entre elles ne s'imposent plus en raison notamment du renoncement à la hausse des taxes sur les carburants. Alors il s'agissait de l'extension du chèque énergie, du relèvement du barème kilométrique pour ceux qui roulent beaucoup et du doublement de la prime à la conversion. Ces mesures-là sont abandonnées, ça représente une économie, dit-on, d'à peu près 130 millions d'euros. Est-ce que ça ne risque pas d'apparaître comme un peu mesquin et peut-être justement de relancer la mobilisation?
Alors, ce n'est pas un problème de financement, je crois que c'est un problème, une question de méthode. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on dit qu'on va avoir un grand débat national qui va être partout sur le territoire, dans toutes les communes, pour discuter d'un certain nombre de solutions, tout ce qui est mesures d'urgence immédiate, là on le fait, c'est les urgences sociales, c'est le pouvoir d'achat et les salariés. Et ça, oui, mais c'est aussi des mesures dont on a vu que aussi bien les partenaires sociaux, les collectivités locales, les associations, les citoyens, les gilets jaunes voulaient discuter. Quelle est la meilleure manière de faire ces primes? On va par exemple ouvrir tout début janvier une négociation avec les partenaires sociaux, les collectivités locales sur la mobilité. Aujourd'hui, il y a 2 salariés sur 3 qui vont au travail en voiture. Certains, c'est un choix. Beaucoup, ils n'ont pas le choix. Donc, on peut faire une prime pour la conversion ou les kilomètres, mais il faut d'abord qu'on discute sur le fond comment on va aller vers cette transition écologique sur lequel je crois qu'il y a un certain consensus. Tout le monde voit qu'il y a 48 000 morts à cause des particules fines aujourd'hui. Il y a un problème de santé publique. Tout le monde voit qu'on va dans le mur pour nos enfants et nos petits-enfants, d'un point de vue de la planète. Donc, c'est pas là-dessus qu'il y a le débat. Mais comment on fait? Est-ce qu'on arrive à faire, par exemple, du covoiturage à grande échelle? Est-ce qu'on fait d'autres solutions? Donc, peut-être que le chèque énergie, il y a peut-être autre chose sur l'énergie à faire qui est plus intelligent. Je crois qu'on va avoir quelques semaines de débat. Ouais. Ça vaut le coup de reporter une solution. Et peut-être d'en trouver une meilleure dans quelques semaines.
On va parler, on a deux, trois questions techniques, pas trop, parce que ça a déjà été fait. Mais restons un instant. Emmanuel Macron, pour la première fois de son quinquennat, subit un échec personnel. Comment vit-il ce moment de voir une partie des Français qui se braque contre lui, qui demande sa démission et parfois l'insulte. Comment il vit ça ?
Alors d'abord, il y a aussi plein de Français qui le soutiennent et voilà.
Mais défilent pas dans la rue pour déclarer leur amour au président.
Non, voilà, ça se fait pas tellement. En général, vous avez plutôt les mauvaises.
Vous qui voyez tous les jours, est-ce qu'il est atteint ?
Ce que je crois, c'est que.
Est-ce qu'il a compris en réalité ?
Le président de la République, le gouvernement. Je crois qu'on va faire, on va changer quand même de méthode sur un certain nombre de points, parce que
donc celle d'avant n'était pas la bonne. Donc.
On ne recule en rien sur le projet présidentiel. Tout ce qu'on fait va augmenter, et l'emploi et l'efficacité économique et la justice sociale. Tout ça était dans le programme. Il y a des choses qu'on accélère, des choses qu'on amplifie. En revanche, je crois qu'en termes de méthode, enfin moi c'est la leçon que je retiens, c'est que le programme de présidentiel, il s'est construit avec la Grande Marche, et il s'est construit à partir de beaucoup de demandes de la population. Puis ensuite, le gouvernement, nous sommes attelés à réaliser ses promesses de campagne. Et je crois que tout le monde reconnaît que c'est un président qui, et un gouvernement qui tient les engagements de campagne. Mais en ce faisant, on s'est beaucoup concentré sur les réformes, c'est-à-dire pour nos concitoyens, et je pense qu'on n'a pas assez pris le temps de le faire avec eux, à chaque étape. C'est-à-dire, c'est pas simplement un mandat, je crois que l'époque n'est plus simplement au mandat. Il faut en même temps la participation. Dit autrement, comment on articule la démocratie représentative, c'est-à-dire élire un président, des députés, un maire, des syndicats, des associations qui représentent les citoyens. Mais on voit bien qu'à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure d'aujourd'hui, de l'immédiateté, il faut aussi une démocratie participative immédiate.
Mais
ça, c'était l'origine de En Marche, et c'est peut-être ce qu'on a trop oublié. Et maintenant, il faut réconcilier les deux.
La semaine dernière, dans son allocution, au cours de laquelle il a annoncé ses mesures, Emmanuel Macron a dit, je vais le citer, hein, c'est en pressentant cette crise que je me suis présenté à vos suffrages. Autrement dit, il dit, je le sentais venir. Pourquoi alors ne pas l'avoir anticipé, et pourquoi ne pas avoir pris tout ce train de mesures dont vous nous dites d'ailleurs qu'elle vont bénéficier à l'économie française, pourquoi ne les avoir pas mises en œuvre immédiatement après son arrivée au pouvoir et finalement avoir attendu cette crise pour le faire ?
Il y en a beaucoup qui sont mises en œuvre, mais le temps qu'elles produisent leurs effets, je vais vous donner
deux exemples. Mais si vous les annoncez tout de suite, c'est déjà la bonne nouvelle.
Je vais vous donner deux exemples dans mon ministère, de ma responsabilité. Dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui est la deuxième loi après les ordonnances travail que j'ai eu l'honneur de porter au Parlement, il y a deux mesures qui vont changer quelque chose très profond pour 26 millions d'actifs. Le premier, c'est on crée un vrai droit à la formation pour pouvoir évoluer toute sa vie, changer de métier, progresser. Eh bien, le temps de l'annoncer, de le débattre au Parlement et de le mettre en œuvre, ça va se voir en 2019. Autre mesure très importante sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça fait 46 ans que les femmes n'ont pas le même salaire, 9% d'écart à travail égal avec les hommes, et 25% d'écart sur la carrière. Eh bien ça a été très fort remonté pendant la campagne présidentielle, et c'est d'ailleurs pour ça que le président avait annoncé que les femmes hommes, ça serait la grande cause du quinquennat. On a mis ça dans la loi, ça a été voté avec les partenaires sociaux, on a négocié et on a discuté quelque chose. Ils ont beaucoup contribué pour rendre ça opératoire, aller à une obligation de résultat. Ça démarre en 2019. Donc, du point de vue de nos concitoyens, vous savez, tant que ça arrive pas sur votre feuille de paye ou dans votre environnement ou dans votre vie quotidienne, ils ont été habitués parfois à ce que les politiques fassent juste des mots. Alors, et donc, une annonce. Eh bien, une annonce, ça n'est qu'une annonce. Et donc, je pense qu'il y a un différentiel de temps, et que c'est pour ça qu'il faut faire des mesures d'urgence qui accompagnent. On peut pas juste dire à nos concitoyens, voilà, faites-nous confiance, on fait ce qu'on a dit qu'on ferait, et ça arrivera dans 18 mois ou 2 ans.
Alors, Richard Ferrand a dit, il y aura pas de carabistouille. Mais on a le sentiment quand même que tout a été fait un petit peu dans l'urgence, sur un coin de table. Édouard Philippe a donné les détails hier dans le journal Les Échos, et notamment sur la suppression de la CSG pour les retraités qui touchent moins de 2000 euros. Cette suppression aura lieu en juillet. Donc d'ici là, les retraités,
je peux expliquer.
Oui, mais attendez, laissez-moi juste finir. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ils allaient payer en juillet et ils seraient remboursés par la suite. Pourquoi ils devront payer et pour ensuite être remboursés?
D'abord,
il y a une carabistouille.
D'abord, non, il n'y a pas une carabistouille. Il y avait 7 700 000 foyers de retraités qui devaient payer la CSG. Et là, il n'y en a plus que 3,5 millions. Donc déjà, c'était 70%, maintenant ça va être seulement 30% des retraités qui paieront la CSG majorée, les autres auront la CSG minorée. Donc déjà, ça change beaucoup les choses.
Oui, mais ils vont continuer à la payer, là, ça ne va pas rentrer en janvier.
C'est un impôt, oui. Et un impôt, ça s'évalue par rapport à vos revenus fiscaux de l'année d'avant. Dans un an, on n'aura plus ce genre de problème. Avec le revenu à la source, l'impôt à la source, on saura en permanence où on en est. Mais là, aujourd'hui, personne ne connaît les revenus fiscaux des retraités pour 2018. Donc le temps qu'ils les déclarent, donc ils seront bien.
Donc ils vont la payer jusqu'en juillet, on est d'accord.
Oui, mais on le rembourse depuis le 1er janvier.
C'est ce que je disais.
Ça sera juin, juillet. Oui, mais par contre, on leur remboursera les 6 mois. C'est-à-dire que la mesure est applicable au 1er janvier. Les services fiscaux vont faire leur maximum pour aller plus vite, mais on ne peut pas donner une baisse d'impôt sur une imposition qui n'est pas connue. C'est, là, pour le coup, si on pouvait le faire, vous savez, en deux mois, on le ferait en deux mois.
Pour rester un instant sur les aspects techniques, mais pas tant que ça, finalement, les fameux 100 euros qui ne sont pas une augmentation du SMIC, mais qui sont une augmentation de revenus. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui était notre invité ce matin sur RFI, disait cette augmentation, finalement, c'est une manière de demander à ceux qui n'ont pas beaucoup de payer pour ceux qui n'ont rien du tout, parce que c'est l'État qui va payer, donc finalement le contribuable. Est-ce qu'il était vraiment impossible d'aborder la question du salaire et de demander un effort aux entreprises?
Alors d'abord, c'est tout à fait le contraire, mais j'y reviendrai. Moi j'ai appelé les branches, les entreprises, il y a quelques semaines, plusieurs semaines, de façon répétée, à être, j'allais dire, allant sur les négociations salariales 2019.
Un appel au don, ça vaut ce que ça vaut.
Non, c'est pas un appel au don, c'est un appel à la responsabilité. Ouais. D'ailleurs, Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF, s'est engagé au nom des branches à ce que toutes les branches qui ont des minima conventionnels en dessous du SMIC rattrapent ça en 2019. Donc, non, ça c'est une chose. Deuxièmement, il y a le SMIC qui augmente. Et ça, c'est un index légal qui 1,5. Augmente en fonction. Et ça sera 1,5, c'est-à-dire qu'il va passer de 1888 euros net par mois à 1204. 1,5, c'est plus que les dernières années. Ouais. Ça a lieu. Alors après, le choix, c'est l'articulation entre l'économique et le social. Si vous portez tout le poids de l'augmentation des salaires de façon massive sur le salaire payé par l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les petites et moyennes entreprises, qui sont déjà très ric-rac pour beaucoup d'entre elles, qui ont presque pas de bénéfices, eh bien, elles risquent de devoir augmenter les prix des services, des produits, ou licencier. Donc, en gros, si vous augmentez massivement les salaires plus bas à la charge des entreprises, vous avez un effet désastreux en termes d'emploi. On a déjà un des pays qui a le taux de chômage le plus élevé, même s'il a baissé depuis un an, de 9,7 à 9,1%. Donc ça, c'est pas la bonne solution. En même temps, il y a un sujet de pouvoir d'achat des revenus les plus modestes. Et donc, on a une solution qui est la prime d'activité, où effectivement, aujourd'hui, il y a 3 800 000 foyers qui peuvent être éligibles. Il y en aura 5 millions dès le 1er janvier. Ouais. Et où là, c'est la solidarité collective qui complète concrètement 100% des personnes qui, aujourd'hui, ne vivent que du SMIC, qui n'ont pas d'autres ressources, auront les 100 euros en plus. Et non seulement ces personnes-là, mais jusqu'à, pour une personne seule, tous ceux qui ont jusqu'à 1550 euros auront plus, et une femme seule avec enfant, jusqu'à 2000 euros, elle aura 100 euros en plus. Alors, c'est une mesure de justice sociale, elle n'est pas payée par les plus vulnérables, parce qu'elle est, justement, elle est limitée à un certain montant, et donc, c'est une mesure de répartition et de justice sociale, qui a le double avantage d'augmenter les revenus des travailleurs modestes, donc d'encourager de rester sur la valeur travail, d'encourager ceux qui travaillent, de les aider à vivre décemment, à boucler leur fin de mois, et en même temps, de ne pas grever la compétitivité des entreprises, surtout les petites et les moyennes, qui sont celles qui créent des emplois demain. Sur donc, c'est à la fois protecteur de l'emploi, et ça augmente le pouvoir d'achat.
Alors sur la prime exceptionnelle, quelques entreprises ont déjà levé le doigt, donc Orange, Total, beaucoup d'entreprises du CAC 40. N'est-on pas tenté de penser que ce sont encore là une partie des Français qui sont privilégiés, qui vont toucher cette prime parce qu'ils travaillent dans ces entreprises du CAC 40, et que le petit patron de PME, de TPE, eh bien, lui ne pourra pas suivre et ne pourra pas donner de prime à ses salariés?
Alors, je ne le pense pas pour deux raisons. La première, c'est que cette possibilité de prime exceptionnelle défiscalisée, au départ, c'est une demande de la Fédération des petites et moyennes entreprises. Mmh. En disant, justement, on a quelquefois, il y a des petites et moyennes entreprises qui vont très bien. Et ils disent, on va peut-être pas, si une fois on va bien, mettre en place tout un système lourd, mais on veut pouvoir distribuer, en gros, partager de la richesse, partager une partie des bénéfices, si ça va mieux. Donc c'était eux qui l'avaient demandé. Et depuis que ça a été annoncé, et c'est applicable là tout de suite, hein, parce que c'est entre le 10 décembre et le 31 mars qu'il faut le faire. On a déjà beaucoup de signaux de petites entreprises, une moyenne, qui vont le faire. Évidemment, l'entreprise qui est en difficulté, qu'elle sera grande ou petite, si elle ne peut pas le faire, elle ne peut pas le faire. Mais il y a un engouement assez fort, y compris dans les petites et moyennes entreprises, parce que c'est très simple. Et vous savez, c'est quand même assez rare. Si l'entreprise donne 400 euros... Ouais. Ça coûte 400 euros l'entreprise et la personne a 400 euros. D'habitude, il y a trois décotes.
Hein. Si c'était tout le temps comme ça, ça serait formidable.
Si ils se faisaient comme ça, nous n'aurons plus d'argent, oui, on n'aurait plus d'hôpitaux, plus d'écoles, plus de routes et plus de police. Donc, ça ne peut pas marcher comme système général. Il faut rappeler que les impôts.
C'était une boutade.
Oui, non, mais il y a des gens qui oublient que les impôts servent à quelque chose.
Est-ce qu'on réfléchit au gouvernement est-ce que le président de la République se demande aujourd'hui quelles conséquences va avoir ce mouvement sur la suite du quinquennat et sur les réformes à venir? Est-ce que vous allez marcher sur des œufs?
Je ne crois pas, mais comme je le disais tout à l'heure, d'abord, je ne crois pas parce que les Français ont élu et le président de la République et l'Assemblée nationale sur un agenda de réforme.
Donc l'assurance chômage et les retraites.
Voilà.
Mais il y aura des perdants sur les retraites. Il y a 42 régimes, si je corrige moi.
42 régimes, aujourd'hui, il y a plein de perdants.
Et vous voulez en faire système, un. Vous imaginez?
42 régimes. Aujourd'hui, c'est un système très injuste. Selon que vous êtes dans tel ou tel régime, que vous passez de l'un à l'autre, vous avez travaillé autant, vous avez gagné autant, vous avez cotisé autant, ils n'avaient pas du tout la même retraite. Donc on part d'un système injuste, hein, donc compliqué et injuste. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, je pense que dans la méthode, peut-être il faudra qu'on prenne un peu plus de temps pour vraiment discuter. Je crois qu'il y a une soif...
Vous montrez moins intelligent et moins subtil, peut-être.
D'une certaine façon, il y a une soif de débat citoyen. Oui. Pour moi, le grand débat national, ça va être une sorte d'atelier citoyen à grande échelle partout. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le beau côté de la crise, c'est que ça révèle qu'il y a beaucoup de citoyens. Je mets de côté les violents qui veulent tout casser et luttent contre la démocratie. Je ne parle pas de cela. Mais il y a beaucoup de citoyens qui veulent avoir leur mot à dire, pas simplement à travers leur mandat, la démocratie représentative, mais aussi dire, mais tiens, là on a trouvé une solution ici, pourquoi on ne la généralise pas? Nous, on pense que... Et donc, je pense que ça, c'est une inspiration assez profonde qui s'est révélée dans une crise, mais qui est plus profonde que ça. Et ça, en termes de méthode, je pense que ça nous amènera à évoluer en méthode.
Vous parliez tout à l'heure des promesses de campagne.
Personnellement, je pratique la concertation depuis 18 mois à haute dose, parce que je ne crois qu'à cette méthode.
Ouais. La loi travail, très vite adoptée après l'arrivée d'Emmanuel Macron, a poussé la flexibilité du travail. N'avez-vous pas oublié, dans le fond, le volet sécurité? En clair, c'était... Est-ce que c'était le bon moment pour rattraper le retard de libéralisme en France, mais sans le social?
Et 20 secondes. Je suis désolé de vous le dire, mais on arrive au terme de l'émission. Vous pouvez faire une réponse extrêmement brève.
D'abord, les réformes qu'on fait, c'est créer une flexi-sécurité à la française.
Il n'y a pas de sécurité.
Il y a bien un volet. Bien sûr que si. La loi Avenir Professionnel est un immense progrès social, une immense avancée en termes de protection, d'émancipation. Donc si, flexi-sécurité à la française, c'est ce qu'on est en train de construire.
Merci Marie-Pénico. Merci.
Merci, à la semaine prochaine. À très vite.